Ta venue est aussi certaine que l'aurore. Nous, si nous te prions ce soir de nous aider, de nous enseigner, de nous donner les avertissements qu'il nous faut, de nous préparer pour ta venue, que nous soyons trouvés prêts à te rencontrer. Oh, nous te demandons que tu nous sois favorable également et que ta grâce soit avec nous et que tu nous aides alors que nous allons ouvrir ta parole. Nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Te le demandons. Amen. Amen. Seigneur, bénisse. Seigneur, bénisse richement. Nous lirons ce soir dans Daniel chapitre 5. Les cinq premiers versets. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Il les fit apporter afin que le roi et ses grands, lui et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servirent pour boire. Ils burent du vin. Ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Avant de commencer, je vais demander juste à Fabrice de tourner un petit enregistrement. Et puis nous allons commencer. Nous intitulerons le sujet de ce soir, l'écriture sur la muraille.
De quelque chose dont beaucoup ne parlent pas. Un événement qui a eu lieu à Hollywood, quelques heures avant le début des incendies, le blasphème. Oui, vous avez bien compris. Hollywood s'est moqué du nom de Dieu, quelques heures avant le début des incendies dévastateurs,
comme vous allez le voir tout de suite dans cette vidéo. En fait, un jour avant que l'incendie ne commence à détruire la Californie, plus précisément le 6 janvier 2025, il y avait à Hollywood un événement appelé « The 2025 Golden Globes Awards » qui célébrait le meilleur du cinéma et de la télévision. Alors que les stars et les artistes d'Hollywood étaient en train d'être honorés pour leurs meilleurs films, la comédienne Nikki Glaser, qui animait la cérémonie de remise de prix de la saison, a prononcé un discours dans lequel elle a inclus le nom de Dieu de la manière la plus dégradante, se moquant de lui et affichant le nom de Dieu recevant une note zéro de la part d'Hollywood. Tout le monde dans la salle a éclaté de rire tout en applaudissant, alors qu'elle continuait à plaisanter sur le nom de Dieu pendant plusieurs minutes.
Welcome back. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers.
Il est temps de regarder qui a eu la meilleure note. Regardons les chiffres. D'accord, les acteurs et l'équipe sont en tête avec 11 mentions. Les mères tiennent le coup avec 3 mentions. Dieu le créateur de l'univers, 0 mention. Mais cela n'a rien de surprise dans cette ville où Dieu n'existe pas.
God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town.
La question est la suivante. Quel était l'objectif de ce discours? Oui, c'était le moment de se divertir et de s'amuser. Mais pourquoi inclure le nom de Dieu et s'en moquer lors d'activités aussi futiles? Qu'est-ce que Dieu avait à voir avec cet événement du cinéma, de la musique et du télé-réalité, au point d'inclure son nom dans la liste des participants pour ensuite lui attribuer la note 0? C'est comme si elle voulait dire au monde, pour nous, les stars d'Hollywood, Dieu n'existe pas et voilà que nous le mettons en bas de la liste et lui donnons 0 point, parce que pour nous, il n'a rien accompli. Moins de 48 heures après ce discours blasphématoire, les incendies ont atteint la Californie, forçant des milliers d'habitants à fuir après que plus de 12 000 résidences et entreprises ont été détruites, causant des dégâts estimés à 300 milliards de dollars américains, selon un bilan encore très provisoire. Au moins 24 personnes sont mortes et plusieurs autres sont jusqu'à présent portées disparues, sans compter des centaines des blessés. Les flammes ont ravagé Pacific Palisades, l'un des quartiers les plus riches des États-Unis, laissant les pompiers débordés alors qu'ils combattaient l'incendie depuis le sol et les airs, au moment où le feu anéantissait des maisons dont la valeur pouvait atteindre plusieurs millions de dollars. Près de 30% des travailleurs du cinéma et de la télévision du pays vivaient dans ce quartier chic de la Californie. Cela comprend les scénaristes, les monteurs, les opérateurs de caméra, les maquilleurs, les traiteurs et bien d'autres. Sur les photographies et vidéos de la catastrophe, certaines rues ont été entièrement rayées de la carte et d'autres sont devenues fantômes. Ces images de quelques jours seulement d'incendie ne faisaient presque aucune différence avec celles de Gaza, ravagées par les bombardements de Netanyahou pendant plus d'une année. En fait, la Californie a toujours eu des problèmes avec les incendies, mais jamais à une telle échelle et jamais aussi désastreux. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a envoyé ce feu pour les punir.
Voilà. Comme Madame dit, l'écriture, l'histoire est répétitive. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans les temps plus anciens, ça se répète toujours au moins une fois. Ce n'est pas pour rien que ce qui est écrit pour nous instruire. C'est écrit pour nous instruire de ce fait que ce sont des choses sur lesquelles nous devrions faire attention. Cet incendie à Los Angeles, on en a parlé plusieurs fois ici. En vérité, d'après leurs enquêtes, eux-mêmes ne savent pas où a commencé cet incendie. Et ils ne savent pas dire que c'est criminel. Parce que les foyers, il y a plusieurs foyers, les foyers ne sont pas très rapprochés. Ils sont assez éloignés les uns des autres. C'est impossible, à moins que ce soit de 5, 6 personnes qui se sont concertées pour qu'à un certain moment, ils mettent le feu en même temps. Mais ce feu est ravageur et jusqu'au moment où nous parlons aujourd'hui, ce feu n'est toujours pas éteint. On peut se poser la question que le monsieur se pose. Quand ils ont leur divertissement, on ne sait pas ce qui les pousse à vouloir inclure Dieu dans leurs histoires. Dieu les laisse tranquilles quand ils veulent faire leur festin, leur divertissement, leur cérémonie. Mais qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? C'est à se poser la question. Exactement comme ce Belshazzar dont nous venons de lire l'histoire, il avait tout le loisir, je crois que ce n'était pas le premier festin qu'il avait fait. Il avait le récipient dans lequel il pouvait verser son vin sans problème. D'ailleurs, il a commencé par là. Il a pris son verre ou sa coupe à lui. Il a d'abord commencé à prendre le vin. Et puis, il est devenu léger, je crois, par le vin. Et comme une mouche, ce n'est pas une mouche, c'est le vin qu'il a piqué. Le vin le pousse finalement à demander qu'on lui amène les vases d'or, les vases d'argent qui se trouvaient là, quelque part, qui étaient des vases du temple, des vases que Dieu avait pris soin de désigner comment ils devaient être, où ils devaient être placés. Ce sont des vases, ce sont des ustensiles que Dieu a dit de ces ustensiles que c'était des choses très saintes. Exode 30. C'est Paul qui dit, on ne se moque pas de Dieu. Ou Jacques, je crois. Exode 30. À partir du verset 26, tu en oindras, donc de l'huile d'onction, tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses. Ces choses-là, les vases, c'était des ustensiles de la table. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera sanctifié. Quand Titus a détruit le temple, il a emporté avec lui aussi certains objets du temple. L'arche, on ne sait pas très bien où il est, je ne sais pas si on l'a déjà découvert, le chandelier et tout cela, mais nulle part, je crois, aucun autre chef n'a osé utiliser, comme Belshazzar avait utilisé, je crois qu'ils en ont tiré la leçon. Dans Luc 17, je répète, Frère Abraham dit, l'histoire est répétitive. Et nous nous souvenons d'un événement qui a apporté le feu sur la terre. Jésus en parle dans Luc 17. Il dit, cet événement-là se reproduira encore à nouveau, avant la venue du Seigneur. Dans Luc 17, verset 26, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. En fait, c'est à partir du 28 que je voulais lire, mais ce n'est pas grave. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre, tomba du ciel et les fit tous périr. Ce feu est descendu du ciel, évidemment. Que s'est-il passé du temps de Lot? Pourquoi Dieu a-t-il ainsi fait descendre le feu sur Sodome? Dans Genèse 18, Dieu dit à Abraham, au verset 20, il dit, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Paul nous a prévenus. Paul dit que dans les derniers temps, il y aura des blasphémateurs. Et les gens aiment faire des blagues sur Dieu, alors que dans les Écritures, dans la parole de Dieu, Dieu ne fait aucune blague sur les gens, sur les incrédules. Dieu ne se moque pas d'eux. Au contraire, il leur ouvre la porte, il leur donne l'occasion de se repentir. Et ce qui est arrivé à Babylone, nous venons de lire dans Daniel, c'est exactement la même chose. Le péché a abondé à Babylone. Et pourtant, le grand-père de Belshazzar, mais dans la Bible, on ne parle jamais de grand-père, on va dire son père. Le grand-père de Belshazzar, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, avait déjà eu des problèmes. Surtout quand il s'est levé disant, c'est moi le grand Nebuchadnezzar qui ai bâti cette grande ville. Dieu l'a réduit au niveau d'animal. Et le petit-fils devait le savoir. Ce n'était pas si loin que ça de lui. Je peux encore comprendre Pharaon qui n'a pas connu Joseph. Ça a fait plusieurs centaines d'années. Oui, que Joseph était déjà parti. Bon, je peux encore comprendre Pharaon, mais Belshazzar, je ne le comprends pas. Son grand-père avait dit ceci dans Daniel chapitre 2. Verset 46, vers la fin. Après que Daniel lui a interprété son songe, il dit « Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir le secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et établit chef suprême de tous les sages. Mais, quelque part, Nebuchadnezzar a reconnu le Dieu de Daniel. Et il va même dire ceci, dans Daniel chapitre 3, après l'épisode de la fournaise, où étaient jetés les trois Hébreux, verset 29, chapitre 3, 29, il va dire « Voici maintenant l'ordre que je donne, c'est Nebuchadnezzar qui parle. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. » Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc vous voyez, Belshazzar était prévenu. Tout comme nous, nous sommes prévenus. Les gens à Los Angeles, ils sont prévenus. Ils n'ont pas osé faire la blague sur Allah ou sur Mahomet. Tout simplement parce qu'ils ont peur qu'on leur mette des bombes. Nous, vous et moi, nous ne mettons pas des bombes. De toute façon, vous et moi n'étions pas là. Nous ne savions pas ça. S'il n'y avait pas eu d'incendie à Los Angeles, on n'aurait peut-être jamais su cette histoire qui s'est passée. Donc, nous ne sommes pas de leur milieu. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes au courant. Parce que ça a attiré l'attention de ceux qui ont suivi et qui connaissent la parole de Dieu. Dieu est le Dieu véritable. Il dit « À moi la vengeance ». Lui-même, il s'occupe de ceux qui se moquent de lui. Et Belshazzar a jugé bon d'aller prendre les vases d'or et les vases d'argent pour qu'ils boivent avec ses grands, n'est-ce pas? Alors qu'il devait savoir, de par l'enseignement de Daniel, que s'il était roi, c'était grâce au fait qu'il soit le fils en descendant de Belshazzar. Il est né dans une famille royale. Quel est le roi qui naît, ou le prince qui naît dans une famille royale de son propre choix? Il n'y en a pas. Quelqu'un qui naît dans une famille royale, c'est une grâce que Dieu lui fait. Il n'a rien fait pour naître dans cette famille-là. Et Dieu, qui ça, Daniel a bien enseigné à son grand-père, il lui a dit, au chapitre 2, verset 20, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui, c'est le Dieu, qui change les temps et les circonstances. » Dites amen à ça. Qui renverse et qui établit les rois. Donc, s'il était établi, c'était par la grâce de ce Dieu-là, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Hollywood, c'est le centre du cinéma. Ils ont des décors magnifiques, des paysages magnifiques, je ne parle pas des décors qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ils ont des paysages, c'est pour la beauté de paysages, c'est très beau. Et le créateur de ces paysages qui leur permet de faire leur cinéma, n'est-ce pas? C'est de lui qu'ils se sont moqués. Et lorsque Belshazzar s'est permis, comme Frère Abraham dit, il a voulu s'offrir du bon temps avec les ustensiles du temple, lui et ses concubines. Les concubines, le frère dit, ce sont des prostituées légales pour quelques plaisirs licites dans le pays. Mais c'est illicite selon la loi de Dieu. Avec ces concubines-là, ces femmes qui n'ont, je lis, hein, qui ont perdu leur moralité. Et c'en était assez. C'est alors que la main lui est apparue en écrivant sur le mur. L'humanité va vers une catastrophe, c'est certain. Quand en 2004, il y a eu ce tsunami, c'était pas à n'importe quelle plage. C'était une plage, c'était en plein mois de décembre, où ceux qui fouillent l'hiver font partie, n'est-ce pas, se délecter là-bas. Ils sont partis passer leurs vacances là-bas au chaud. Mais c'est vraiment, c'est un centre du péché. Et tout semblait calme. Tout comme avec Belshazzar, tout semblait aller très bien. Or, tout d'un coup, il y a une main qui écrit sur le mur. Ces gens-là étaient sur la plage, au calme, tout allait bien, ils se baignaient, ils bronzaient. L'eau s'est retirée même, presque comme dans un silence. Et puis tout d'un coup, voilà une vague déferlante qui fond sur eux à la vitesse d'un avion. 800 km/h. On n'avait pas le temps de fuir d'ici à la porte. Il est sur vous. Du moins, cette vague, elle est sur vous. Et les gens n'ont pas compris, mais vous et moi, nous comprenons. Parce que Dieu nous prévient, Dieu nous avertit, et nous tenons compte des avertissements divins. C'est pas une blague. Quand je vois ces pauvres pompiers se battre contre le feu, j'ai pitié d'eux. Quand je vois tous ces avions délestés de tonnes et de tonnes d'eau, mais le feu ne s'éteint pas. Ils espèrent même qu'il pleuve. Il ne pleut pas. Ou alors, s'il fait froid, ils espèrent qu'il neige. Il ne neige pas. Tout est sec. Ça
ça flambe comme du chaume. Et justement, le jour de l'Éternel, il le dit dans Malachie 4. Il dit, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le chaume, c'est la paille. Ça brûle aussi bien que l'essence. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Donc, ce qui arrive à Los Angeles actuellement, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va arriver. À cause de quoi ? À cause du péché. Le péché qui abonde sur la terre. À Sodome, ils ont voulu s'offrir du bon temps avec des anges. Déjà, Dieu a entendu le cri de leur péché, n'est-ce pas ? Jusque-là, Dieu n'a rien fait. Il est descendu. Il dit à Abraham, je suis descendu pour me rendre compte. Dieu est descendu. Et voilà que les anges le précèdent. Ils arrivent à Sodome. Chapitre 19, verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Les anges sont des êtres qui vivent dans la présence du Dieu vivant. Et ce sont des anges. Ne les souillez pas. Et eux, ils osent venir sans gêne. Ils viennent chez Lot. Lot les a très bien accueillis. Lot, en les accueillant, Lot a vu que ce n'étaient pas des gens de Sodome. Il a vu que ce n'étaient pas des gens, n'est-ce pas, qui étaient comme eux. C'était des gens d'une autre nature. Il a compris. Et il a dit, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, mais nous passerons la nuit dans la rue. Et Lot insiste, mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui entrer dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Vous voyez à quel point Sodome était souillé. Aujourd'hui, lorsque une bombe frappe un certain lieu et que parmi les victimes, il y a des enfants, on pleurniche, on dit il y a des enfants, il y avait des enfants. Oui, mais vous savez, un petit sodomite, il va devenir un jour un grand sodomite. Et Dieu sait ça. Et quand Dieu en prédestine un autre, et il le fait venir sur le monde, mais il sait que si, Dieu sait que si cet homme ou cette femme finit par s'épanouir dans son milieu familial, ça va dévier. Dieu peut peut-être même le reprendre plus tôt dans son jeune âge. Tout simplement parce que Dieu ne veut pas perdre cette âme-là. Et Dieu le reprend plus tôt. Dieu ne commet jamais de faute. C'est souvent difficile, c'est dur à accepter, mais nous faisons confiance à Dieu. Alors, ils vont donc depuis les enfants jusqu'aux vieillards, Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » C'est sans gêne. Je vous dis aujourd'hui, vous et moi, lorsqu'on se retrouve devant ces gens-là, c'est nous qui sommes gênés. Et ils sont à l'aise. Le monde a complètement chamboulé. Résultat, des incendies sans précédent à Los Angeles. Il y a eu souvent des incendies, mais jamais de cette ampleur-là. Et ce n'est pas... Je vous dis, quand je lis la Bible, je peux encore vous dire, ça c'est rien. C'est rien à côté de ce qui va arriver. De toute façon, est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont pas compris. Ils vont encore aller. Mais ce qui est bien, c'est que leur argent ne les a pas protégés. Leur belle voiture ne les a pas protégés. Ni leur villa. Pour moi, ce feu-là, il est venu du ciel. Dieu les a frappés. Et il a frappé exactement leur quartier. Les quartiers des stars, comme ils disent. Ce sont leurs quartiers qui ont été frappés. Les citoyens lambda de Los Angeles, ils sont tranquilles. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui fait que, au vu de ce qui est arrivé, Frère Abraham a raison, a bien raison de souligner que l'histoire est répétitive. Ce qui est arrivé dans les temps passés, à cause de quelque chose, ici à cause du péché, à cause du même péché, la même chose va arriver. Ça va? Et si l'histoire est répétitive, il ne faut pas seulement regarder du côté négatif des choses. Moi, je me réjouis de voir que l'histoire est répétitive. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère, un certain Enoch, qui a été enlevé. Dites amen à ça. Et il marcha avec Dieu, et puis on ne le vit plus. Un apôtre confirme, il dit qu'Enoch a été enlevé. Il n'a pas vu la mort. Si ça se répète, si l'histoire se répète, ceux qui marchent avec Dieu, ils sont aussi promis à un enlèvement. Il ne faut pas toujours regarder le côté mal. Il y a aussi le côté bien qui nous concerne. Donc, et si jamais je meurs avant, l'histoire reste répétitive parce que je peux vous lire, on va y aller, dans Deutéronome 30. Verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. La Bible nous dit qu'il a été enterré. Amen. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, et sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Combien de temps Moïse est resté sous la terre, je n'en sais rien. Mais Jude nous dit ceci. Au verset 8, « Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, Dieu a envoyé chercher le corps de Moïse alors qu'il avait été enterré. Et il dit, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. C'est aussi Jude qui parle d'Enoch, n'est-ce pas? Il dit au verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades » pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Donc, Enoch, lui, il n'a pas vu la mort. Moïse est mort, mais dans Matthieu 17, on voit Moïse vivant. Ce qui rend la résurrection, évident. La résurrection, c'est une évidence. Élie avait été enlevé sans voir la mort. Et on voit que, on voit Élie à côté du Seigneur, à côté de Moïse. Il y a d'un côté les vivants qui ont été changés, qui ont été enlevés, Élie, il les représente, et d'un autre, il y a les morts en Christ, n'est-ce pas, représentés par Moïse, qui ont ressuscité et qui se retrouvent auprès du Seigneur quand le Seigneur revient dans sa gloire. Et ça, c'est une réalité. Si les incendies se répètent, c'est sûr que les résurrections et les enlèvements vont se répéter. Ou plutôt, l'enlèvement aura lieu, la résurrection aura lieu, et la Bible nous le confirme. Et ce qui se passe aujourd'hui à Los Angeles, Abraham dit, c'est Dieu qui écrit sur la muraille. C'est écrit, donc c'est une écriture qui est en train d'être écrite. Le monde ne comprend pas. Pour le monde, ces incendies restent un mystère. Ils n'en connaissent pas l'origine. Mais, comme du temps de Daniel, l'écriture sur la muraille était un mystère. Mais, dans le royaume de Nebuchadnezzar, il y avait un homme. C'est ce que dit la maman de Belshazzar. Dans Daniel 5, verset 7, le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les Chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, type de l'Église, n'est-ce pas, qui a écouté la parole. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Elle n'était pas avec eux. Elle ne s'amusait pas avec eux. Elle ne buvait pas avec eux. Elle ne dansait pas avec eux. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme. Comme aujourd'hui, il y a sur la terre un homme qui révèle lui-même sa parole. Amen. Comme les frères d'Emmaüs, n'est-ce pas, Cléopas et l'autre, il y a un homme qui les a rejoints sur le chemin et qui leur a révélé ce qu'il en était de la situation qu'ils vivaient. Et aujourd'hui encore, cet homme est toujours là, bien vivant au milieu de nous. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père l'établirent, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, et ainsi de suite. Mais le frère dit, il y a aujourd'hui au milieu de nous un homme capable de nous révéler ce qui se passe. Les événements tels, c'est lui qui est en train d'écrire les événements au travers de ces tremblements de terre, au travers de ces guerres, au travers de ces incendies, c'est Dieu, c'est le doigt de Dieu qui est en train d'écrire. Et Jésus dit ceci dans Luc 21. Verset 8, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront. » D'abord, avant d'arriver là, en fait, il répond à la question, vous connaissez, on connaît ça surtout dans Matthieu 24, hein, verset 7, ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répond, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi et le temps approche, ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, est-ce que vous entendez ça? Ah, Dieu vous bénisse, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Quand vous suivez les informations du Congo aujourd'hui, ils sont là effrayés par la rébellion, les choses qui se passent à l'Est. Mais pour nous, ce n'est pas une question de paniquer. Nous savons que ces choses, Dieu a dit, ces choses doivent arriver premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura, quand vous voyez Poutine entrer dans l'Ukraine et menacer avec son Satan 2, menacer l'Europe de l'Ouest, il nous dit en 10 minutes, son missile peut nous atteindre. Eux, ils ont peur. Ils ont peur d'une guerre nucléaire. Mais nous, nous sommes prévenus. C'est Dieu qui est en train d'accomplir sa parole. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans les ciels, dans le ciel. Et le frère a même ajouté sur la terre. Même en n'ajoutant rien, nous voyons ces choses arriver devant nous. Et plutôt que d'être effrayé, levez les yeux, car votre rédemption est proche. Ce qui se passe ici, c'est Dieu qui est en train d'écrire. Et quand il viendra, il ne faut pas qu'il vienne nous trouver allégés par le vin, comme l'autre. Belshazzar a été pesé et il a été trouvé léger. Et la prophétie lui a été dite. On lui a dit, ton royaume, ça va lui être expliqué, ton royaume sera divisé et hop, on t'enlèvera. À peine il terminait que les Mèdes étaient déjà en place. Le soir même, il a été destitué. Ces choses arriveront, des pires que ce que nous venons de voir là, à Los Angeles, ces choses arriveront peut-être dans une étendue un peu plus vaste, mais lorsque ça arrivera, eux, ils vont être effrayés comme les Babyloniens. Mais vous et moi, nous sommes comme Daniel, toujours dans les calmes. Nous savons ce qu'il en est. C'est l'heure de l'enlèvement, n'est-ce pas? Si c'est l'heure de l'enlèvement, ben, nous nous en réjouissons. Amen. L'Écriture est écrite sur la muraille. Que Dieu lui-même vienne nous interpréter cela. Prions le Seigneur. Prions. Père céleste, l'histoire du monde, tu l'as vu se dérouler avant même qu'elle n'ait commencé. Tu as prédit ces choses. Et au travers de ton serviteur Paul, tu nous dis que dans les derniers jours, il y aura des blasphémateurs. Et les blasphémateurs, pour qu'ils soient bien visibles, ils ont libre cours à la radio, à la télévision, dans toutes sortes de médias. Au travers de ces services publics que nous payons, avec l'argent et de la sueur de nos fronts. Ces choses ne sont pas censurées. Ils se donnent même le droit au blasphème. Et ils blasphèment. Même dans des choses qui n'ont rien à voir avec toi, ils veulent t'y inclure. Nous te demandons, alors que nous voyons le jour, ce grand jour, le grand jour arriver, nous te demandons de nous assister pour que nous soyons trouvés prêts. Parce que toutes ces choses sont annonciateurs de ce grand jour que nous attendons. Tu es celui qui éclaire notre chemin. David ne se réjouit pas de l'éclairage de sa maison, mais il se réjouit de l'éclairage de son sentier. Aussi, notre sentier, puisses-tu l'éclairer. Nous sommes des brebis, nous marchons suivant notre berger qui nous éclaire le sentier. Nous ne voulons pas nous en départir. Nous ne voulons pas en dévier, mais nous voulons y rester d'une manière telle que tu trouves ton plaisir en nous. De nous-mêmes, ce n'est pas possible. David a dit, David l'a reconnu. Il a dit, ta houlette et ton bâton le rassuraient. Cela nous rassure également aujourd'hui. Que tu nous gardes loin des blasphémateurs. Que nous ne tenions pas conseil avec eux. Que nous ne participions pas à leurs histoires. Mais si nous le pouvons, que nous puissions apporter le témoignage de ta grandeur et de ta sainteté. Accorde-le, Père. Nous nous réjouissons que l'histoire soit répétitive. Si tu as enlevé un jour Enoch, si tu as un jour enlevé Élie, tu as enlevé Moïse, tu l'as ressuscité, tu l'as enlevé, tu peux aussi le faire avec nous, car tu l'as promis. Et nous attendons ce jour-là. Par l'Esprit Saint, c'est-à-dire que nous ne l'attendons pas avec impatience, mais avec la patience du Saint-Esprit. En endurant parfois des choses difficiles, des moments difficiles, mais que cela n'entame pas notre confiance envers tes promesses. Nous nous y accrochons. C'est là que nous ancrons nos âmes. Tes promesses sont véritables, car nous savons que tu as juré par toi-même. Et nous nous attendons à toi. Guéris nos malades. Donne la force. Redonne leur intégrité à nos infirmes. Que tu délivres ceux qui sont liés. Que tu sortes ceux qui sont dans la fournaise. Et que tu sois honoré et loué par tes rachetés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.